RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour cette émission de Priorité Santé à Dakar. Aujourd'hui encore, réunis ici dans l'enceinte de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop. Avec nous, nos invités, je vais vous les présenter dans quelques instants, doyen, professeur, médecin et bien sûr, qui dit université, dit étudiant. Et merci à vous qui avez pris place sur les sièges du grand amphithéâtre de la fac de médecine. Alors nous allons bien sûr vous donner tout à l'heure la parole, la jeune génération à l'honneur pour entendre vos questions, écouter vos témoignages au moment où est célébré un anniversaire historique. Ici c'est le centenaire de l'école de médecine de l'Afrique occidentale française, Dakar. C'est la doyenne des facs de médecine au sud du Sahara, faculté de référence à l'échelle de la région. On essaiera de voir ce qu'il en est à l'échelle internationale, quelle offre de formation, quelles conditions d'enseignement, quelle adaptation aux besoins sanitaires des populations, c'est essentiel bien sûr. On verra avec vous toutes et vous tous ce qui marche, ce qui fonctionne ici à Dakar et ce qui mérite aussi d'être amélioré. Alors, un siècle d'enseignement de la médecine, centenaire de l'école de médecine dont la faculté est l'héritière directe, avec nous quatre invités qui ont appris leur métier de médecin ici à l'UQAD. Tout d'abord, professeur Abdoulaye Sam, bonjour. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UQAD, professeur de physiologie humaine. Avec nous également, professeur Fatima Tali. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue, vénérologue, médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar et ancienne interne des hôpitaux. Vous êtes également maître de conférences agrégé ici à l'UQAD. Professeur Abdoulaye Kane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de cardiologie, directeur de la polyclinique de l'université de Dakar, chef du service de cardiologie du nouvel hôpital Dalal Jam. Et enfin avec nous, docteur Massamba Sassoun Diop. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Alors, le centenaire de l'école de médecine, il va y avoir toute cette semaine, toute la semaine à venir, un colloque international, conférence, atelier, des thématiques qui balancent entre histoire, état des lieux, perspectives d'avenir. Et pendant toute cette émission, on va justement revenir sur cette double dimension. Il y a l'héritage, il y a ce qu'il y a aujourd'hui, il y a ce qu'il y aura demain, bien sûr, cet avenir du métier de médecin au Sénégal et ici dans la région, les conditions d'apprentissage et puis toutes ces mutations en temps d'existence avec les changements de nom. Je me suis renseignée. On en reparlera tout à l'heure avec vous, professeur Abdoul Kane, parce que vous avez consacré un livre à cette histoire de l'école et de la faculté. 1918, École africaine de médecine de Dakar. 1953, encore au siècle dernier, École préparatoire de médecine et de pharmacie. 58, ça change de nom encore, École nationale de médecine et de pharmacie. Et 62, c'est la faculté, donc un doyen, c'est vous, professeur Abdoulaye Samb. Vous êtes maintenant dans ces fonctions. Quel sens donnez-vous à ce centenaire? Quel sens à ces célébrations?
Un sens relativement important parce qu'aujourd'hui, nous allons profiter de cette célébration pour réfléchir sur ce qu'était la médecine, comment les anciens ont géré jusqu'à présent et aujourd'hui surtout de nous dire est-ce qu'on prend en charge la santé de la population réelle. Et surtout, dans l'avenir, quelles sont les perspectives? Parce qu'il y a eu beaucoup de mutations au niveau, donc, disons, dans la sphère, dans l'enseignement, de la prise en charge de la santé. Il nous faut nous adapter. Ce colloque que nous organisons est un lieu d'échange.
Alors, faculté à Dakar qui est ouverte sur toute la région, 26 nationalités représentées, professeur Samb, c'est important cette dimension panafricaine?
Mais tout à fait. Je pense que la faculté de médecine, depuis sa naissance, est une faculté internationale où l'ensemble donc beaucoup de pays envoyaient des étudiants. Mais actuellement aussi, nous continuons et nous nous efforçons d'avoir et de maintenir cette dimension internationale en accueillant des étudiants venant du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique anglophone et d'autres régions encore un peu plus éloignées comme le Comore, comme Djibouti. Nous continuons à nous efforcer à cela. Et je pense que ça, c'est l'essence même de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie que nous essayons de maintenir.
Alors, professeur Abdoul Khan, vous venez de consacrer, hein, je l'ai dit, un livre, petit livre d'histoire. Vous êtes transformé de professeur de cardiologie en historien pour l'occasion. Je vais commencer par l'anecdote, parce que souvent, c'est ça qui retient l'attention. Est-ce que vous avez découvert des choses étonnantes dans ces archives de l'école de médecine?
Oui, beaucoup de choses étonnantes et passionnantes à la fois. C'est d'abord que l'école africaine de médecine est née du projet colonial. Et le dessin colonial était évidemment avant tout une machine d'exploitation. Et bien entendu, on se rendra compte que finalement, le contexte qui a présidé à sa création est intimement lié au projet colonial. Les mutations sont également intimement liées au projet colonial. Et on se rendra ainsi compte qu'on est parti du certificat d'études primaires, puisque initialement on considérait que les Africains ne pouvaient pas avoir accès à un certain niveau d'éducation et d'instruction. Et puis progressivement, les peuples africains et les peuples assujettis aspirant à plus de liberté se sont retrouvés à pousser beaucoup plus loin et à arriver finalement à obtenir de plus en plus d'acquis par rapport à leur éducation. Et c'est ainsi qu'on est passé de ce qu'on a appelé les écoles primaires supérieures qui ont été supprimées au baccalauréat et ensuite à la vraie formation de docteur en médecine, puisque rappelons-le, initialement, il ne s'agissait pas du tout de docteur en médecine, mais de ce qu'on appelait des médecins indigènes, auxiliaires, puis, après la suppression de l'indigénat, de médecins africains. Et donc, il y a réellement un parallèle entre l'évolution du projet colonial et l'évolution de l'éducation. Et comme l'a dit le professeur Samb également, on voit clairement que Dakar, ayant été la capitale de l'Afrique occidentale française, a tout de suite été le creuset, finalement, de l'intégration. Ce qui veut dire aussi qu'il y a ce dualisme. Il y a certes un certain nombre de séquelles qu'il nous faudra analyser, mais il y a surtout de très belles choses, puisque c'est à partir de là que cette faculté est devenue réellement un creuset d'intégration africaine, mais aussi d'amitié entre les peuples, y compris entre l'Afrique et l'ancienne puissance colonisatrice, c'est-à-dire la France.
Professeur Fatima Tali, médecin-chef, maître de conférences agrégé, qu'est-ce qu'il emporte aujourd'hui, votre pratique de médecin ou le professorat, l'enseignement?
C'est difficile, les deux. L'un ne va pas sans l'autre. En tant qu'enseignante-chercheur, certes, le but de la recherche, c'est de produire du savoir par la formation et de l'appliquer aux patients par les soins. Donc je pense qu'on ne peut pas dissocier ces trois fonctions de l'enseignant-chercheur universitaire.
Et quand vous voyez aujourd'hui vos étudiants, qu'est-ce qui a changé? Quelle expérience différente vous voyez aujourd'hui dans ce que vivent les jeunes par rapport à ce que vous avez connu?
Peut-être le changement le plus visible, c'est la réforme LMD. Maintenant, avec la possibilité d'avoir des passerelles, de ne pas être obligé de poursuivre les 7 années avant d'avoir un diplôme professionnel. Ça, c'est, je pense, la réforme majeure, la réforme. Ce qui a également changé, c'est l'introduction de l'anglais dans l'enseignement. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et j'en profite pour saluer ici les membres du club d'anglais qui font un travail remarquable au sein de cette faculté concernant l'enseignement de la langue anglaise. Et avec les passerelles, on peut sortir infirmier, on peut sortir kinésithérapeute, même si ces passerelles n'existent pas dans tous les départements, mais c'est quand même quelque chose d'innovant dans l'enseignement par rapport à ce que nous avons connu. Et bien sûr, avec le développement des technologies, c'est la plus grande accessibilité à l'information médicale. C'est une avancée majeure pour les étudiants actuellement.
On en reviendra justement sur ce volet numérique. Question à vous, docteur Massamba Sassoun Diop. Quel regard portez-vous sur les études de médecine? Ici, vous êtes le seul à ne pas être professeur, hein. Pourtant, vous enseignez. Et quel regard vous avez justement aussi sur cette expérience et ces années passées ici à l'UQAD?
Oui, moi je trouve que pour justement un médecin qui est vraiment sur le terrain en libéral, c'est très très intéressant dans la médecine d'urgence de pouvoir essayer de transmettre ce vécu très particulier que nous avons. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à faire ces enseignements à l'université. Et je trouve en tout cas que ce rapport et cette discussion qu'on a et ce travail avec les étudiants est très enrichissant. Après, sur l'évolution, je trouve aussi qu'une chose majeure, c'est le nombre. J'ai quelquefois l'impression que ce nombre fait que ça devient peut-être un peu difficile d'arriver à maintenir et à avoir un niveau pour tout le monde suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une certaine différence entre les meilleurs et ceux qui le sont moins, qui peut être un peu trop importante et difficile d'avoir une médiane à un niveau suffisant. Mais il n'empêche que quand on voit sur le plan aussi international, quand on voit qu'il y a des jeunes qui viennent d'autres pays, ils disent quand même que les internes ici, ou même les externes, ont un très bon niveau en termes d'examen clinique.
Alors, il y a une question qu'on va aborder tout au cours de cette émission, c'est former un personnel efficace, utile, aux populations, c'est essentiel. On n'est pas dans l'abstraction hein, dans cette émission, on n'est pas dans l'abstraction dans la santé. Professeur Abdoulaye Samb, comment on fait justement pour faire sortir des étudiants dont le pays a besoin?
Nous élaborons des curricula de formation, donc adaptés aux besoins de la population. Et ça, je pense, c'est extrêmement important. Et surtout, s'adapter aux réalités. Ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, on saura qu'il y a certaines maladies qui ont tendance à diminuer et d'autres qui ont tendance à augmenter. Et ça, il faut adapter. En particulier, les maladies non transmissibles commencent à s'imposer de manière importante, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain. Et à partir de ce moment, c'est des maladies de longue durée, c'est une prise en charge particulière. Donc, il faut orienter notre formation pour qu'effectivement, que ce médecin qu'on va enlever en périphérie, prennent en charge tous ces aspects. Ces aspects d'alimentation, ces aspects de mesures hygiéniques, pour éviter toutes ces maladies non transmissibles, qui sont des maladies relativement coûteuses et qui posent de gros problèmes aujourd'hui, donc de santé publique. Et tout ça, c'est parce qu'on s'est rapproché de la population, on a vérifié et vu effectivement qu'est-ce qui se passe et on a adapté notre curricula par rapport à ça. Je pense que ça, c'est extrêmement important.
Une question clé aussi, c'est, vous êtes tous ici des spécialistes, c'est non seulement d'avoir les moyens de faire cette formation poussée, c'est aussi qu'il y ait un certain nombre de postes ouvert, ça c'est très important. Dans l'émission, on interroge souvent les médecins qu'on a en ligne. On leur dit combien de cardiologues, combien de psychiatres. C'est pas forcément nécessairement le cas ici au Sénégal, mais dans beaucoup de pays, on les compte sur les doigts de deux mains. Donc c'est vraiment un manque énorme. Comment on fait justement pour se spécialiser? C'est une question que j'ai posée avant de donner la parole aux étudiants hein, qui sont toujours ici à l'écoute, très studieux, mais vous êtes bien là avec nous, à l'écoute de l'émission. Cette question, comment chacun d'entre vous a choisi, comment chacun d'entre vous a trouvé sa voie? Même vous, monsieur le doyen, je vous pose la question, professeur Abdoulaye Samb, comment avez-vous choisi votre spécialité?
Très tôt, peut-être, je me suis intéressé donc aux sciences biologiques, où très tôt, donc, on a eu un curricula qui nous amène à aller à l'étranger, faire une spécialité qui n'était pas possible sur place, une maîtrise, un PhD, parce qu'effectivement, on a un déficit important, surtout dans les sciences biologiques, qu'on appelle les sciences fondamentales, dans nos pays, et rapidement, c'est quelque chose donc qui nous a plu et nous sommes donné les moyens d'arriver à ce stade, mais enfin, c'était pas évident.
Professeur Fatima Tali, la dermatologie, la vénérologie, comment cette spécialité est venue à vous?
Alors, je dirais pas initialement que c'était la grande passion, mais c'était une spécialité utile. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé la dermatologie, le diplôme d'études spécialisées n'existait pas encore au Sénégal. Il fallait passer le concours d'internat et j'étais la quatrième dermatologue, disons, à être formée ici au Sénégal. Donc, c'était une spécialité qui n'était pas très, très développée. Et c'est par la suite qu'on a eu le diplôme d'études spécialisées en 2000 qui a formé quand même, disons, le pas mal de dermatologues, aussi bien sénégalais que du Maghreb. Et actuellement, nous sommes quand même une cinquantaine de dermatologues ici au Sénégal. Donc c'était surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dermatologues que je me suis engagée dans cette voie.
Alors quand je m'adresse à vous, professeur Fatima Tali, bien sûr, je vous interroge aussi sur la place des femmes, hein, la place des femmes dans ces carrières médicales et peut-être encore plus dans la spécialisation. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus fréquent?
De plus en plus fréquente, la place des femmes.
Absolument.
Absolument. Absolument. Il faut remonter peut-être un peu à l'histoire pour rappeler que la première femme médecin sénégalaise, qui n'était pas entièrement d'ailleurs formée au Sénégal, est le docteur Marie-Thérèse Basse, qui a été formée en partie en France. Par la suite, le docteur Mamdel Wade, la deuxième femme médecin sénégalaise, et la première entièrement formée au Sénégal, c'est le docteur Fatou Dia. Et depuis lors, quand même, on assiste régulièrement à une féminisation, disons, de la profession médicale, même si nous sommes loin des 50% À titre d'exemple, je vous dirais que ici, au niveau de la faculté de médecine, les femmes enseignantes chercheuses représentent 33% de l'effectif. Si on les compare à l'effectif des étudiants, les étudiantes sont beaucoup moins nombreuses, peut-être un tiers de l'effectif. Mais on sent que, par exemple, dans certaines sections, telles que la pharmacie, on a une tendance à une féminisation. Et je pense que d'ici quelques années, une dizaine d'années, peut-être qu'on arrivera à l'équilibre parfait, 50%, 50%.
C'est ce qui est le cas aujourd'hui en France. Aujourd'hui, les jeunes femmes sont aussi nombreuses, voire plus nombreuses que les hommes à entrer en fonction dans ces professions médicales. Professeur Abdoul Khan, la cardiologie, ça vous est venu comment ?
Tout à fait par hasard. Un prof magnifique m'a expliqué clairement ce qu'étaient les blocs de branches. C'est un terme un peu technique. J'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit, tiens, je veux être enseignant comme lui, transmettre comme lui. Et puis, quand j'ai réussi au concours d'internat, je me suis présenté devant lui en lui disant, tiens, monsieur, je voudrais rester avec vous et devenir cardiologue. Donc, c'est tout simplement ça.
Je donne la parole à vous, docteur Massamba Sassoun Diop. Justement, ce parcours diversifié, ce parcours différent, puisque vous êtes aussi chef d'entreprise, on peut être médecin, chef d'entreprise, donner des cours à la fac, ça veut dire qu'il n'y a pas comme ça un parcours figé, un parcours stéréotypé de professeur académique, même si vous n'incarnez pas non plus forcément l'académie, mais on peut aller par différents chemins.
Oui, justement, à partir du moment où on a cette expérience particulière dans le privé, où on a une certaine souplesse d'ailleurs du privé, c'est vrai qu'à un moment, le soin, de toute façon, on ne fait pas de sélection à l'appel. Donc en fait, on est dans le système public exactement de la même façon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a envie vraiment de transmettre cette expérience qui est particulière. Mais deux choses. D'une part, justement, sur le plan épidémiologique, nous, on a fait, bien qu'étant privé, une étude sur 50 000 patients nationaux sénégalais. Et on s'est aperçu qu'effectivement, nous avons le croisement des courbes entre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles en 2014 pour les hommes et entre 2015 et 2016 pour les femmes. Et on a vraiment ces courbes, et c'est assez impressionnant, sur plus de 50 000 malades.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les maladies chroniques sont plus nombreuses. Vous consultez davantage pour ces maladies, on va dire diabète, hypertension, problèmes liés à l'hygiène de vie, etc., que pour les anciennes pneumonies, méningites, etc.
Exactement. Et sinon, juste une autre chose pour vous montrer qu'effectivement, sur le plan de motivation, moi, en huitième année, j'étais interne, c'était en France, et donc je ne pensais pas, j'avais vu une équipe à l'époque là-bas du SAMU qui est venue s'occuper d'un patient que j'avais, et je m'étais dit, s'il y a un métier que je ne ferai jamais, mais alors là, dont j'étais sûr que je ne le ferai jamais, c'est les urgences. C'était clair, net et précis.
Et alors pourquoi ?
Et le stage d'après, où je suis allé tout simplement parce que je suis allé avec d'autres étudiants, d'autres internes, on était un groupe qui s'entendait bien. J'ai dit, tant pis, c'est la démocratie, vous votez, vous voulez tous aller là-bas, je vais vous suivre. Je suis allé dans ce stage et dès les premiers 15 jours, c'était tellement exceptionnel. C'était un stage qui faisait urgence, SAMU et réanimation. Ce vécu-là faisait que je ne voulais même plus quitter l'hôpital. Et je n'en revenais pas. Et comme quoi, une vocation, on peut l'avoir, mais complètement en décalé.
Mesdames, Messieurs, on va tout de suite passer le micro dans le public de cet amphithéâtre de la Faculté de médecine de l'UQAD. La parole aux étudiants, témoignages, questions, qui s'adressent donc aux doyens, aux professeurs et aux médecins entrepreneurs. À vous la parole, et le premier à s'exprimer, à poser une question dans cet amphithéâtre de la Faculté de médecine, c'est vous, cher Amadou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en quatrième année de pharmacie. On écoute tout de suite votre question.
Au fait, j'ai deux questions. Ma première, elle s'adresse à professeur Fatima Tali. Tout à l'heure, elle a parlé des passerelles qu'offre le système LMD. Je voudrais savoir quelles sont ces passerelles, parce qu'on a tendance à nous dire que dans cette faculté, c'est la loi du tout ou rien. On va jusqu'au bout ou bien on réussit entre guillemets pas. Je voudrais qu'elle revienne par rapport à ces passerelles qu'offre le système LMD.
Parce que vous seriez tenté d'arrêter peut-être plus tôt, de ne pas aller jusqu'au bout ?
Oui, parce qu'on constate qu'ici, une licence en pharmacie ou en médecine, ça offre pas beaucoup de choses.
C'est quoi les débouchés quand on s'arrête avant la fin de l'ensemble du cursus, professeur Fatima Tali ?
C'est ce que je voulais savoir.
Je parle sous le contrôle de M. le doyen et du professeur Abdoul Khan. C'est ce qui est attendu justement dans la réforme LMD, c'est qu'il y ait des passerelles. Il faut dire quand même, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est surtout dans les sciences biologiques, avec la formation des techniciens, de laboratoires, que ces passerelles sont plus effectives. Alors qu'on aurait dû l'attendre au niveau de la section médecine, avec la formation des kinésithérapeutes, la formation des infirmiers diplômés, bien qu'il y ait une école nationale de diplôme, mais il faut qu'à l'issue de 2 ans de cursus après la licence 2 ou la licence 3, que l'étudiant qui ne souhaite pas, pour une raison ou pour une autre, terminer ses études pharmaceutiques ou médicales, puisse avoir un diplôme qui lui permette d'exercer un diplôme professionnalisant.
Alors, vous aviez une autre question, cher Amadou, vous pouvez la poser tout de suite.
Par rapport à des matières comme la communication, est-ce qu'on ne devrait pas l'intégrer dans cette faculté? Parce qu'on constate parfois dans nos salles, dans l'officine, que parfois les personnels de santé ont du mal à communiquer, soit avec leurs patients, soit avec les clients qui viennent dans les pharmacies. Est-ce qu'on ne pourrait pas? C'est une suggestion que je fais au doyen.
Suggestion au doyen, mais je vois plusieurs d'entre vous qui réagissez justement à cette demande. D'abord vous, professeur Sam, mais si vous voulez, vous aurez chacun votre mot à dire sur la question.
Il a abordé un problème important qui est impliqué en tout cas dans le curricula actuellement donc de médecine. Nous avons intégré à la 6e année la communication envers donc le patient. Je pense que c'est important, si ce n'est pas encore fait en pharmacie, il faut y penser. Surtout en officine, vous êtes en contact avec donc des patients qui viennent pour une dispensation de médecin. Il est important de voir comment communiquer. Et je pense que ça, c'est important.
Professeur Fatima Taïe, je vous donne la parole. On fait un tour de table. Si vous voulez être un petit peu plus concis pour qu'on ait bien sûr le temps de répondre à toutes nos questions.
C'est tout nouveau par rapport à nous, ce qu'on a connu dans notre formation où il n'y avait pas la communication. C'est un pas de géant qui reste à affiner, certes, mais en 6e année de médecine, c'est déjà effectif.
Donc des progrès, une évolution. Vous aviez aussi quelque chose à dire, professeur Abdoul Khan, sur cette fameuse communication en médecine?
Oui, je pense qu'il y a réellement à s'approprier l'esprit de la réforme. Et l'esprit de la réforme, c'est de remettre l'apprenant au cœur du processus d'apprentissage. La médecine est un projet humain, nous devons parler aux gens. Mais un projet humain suppose que nous ayons un minimum de données de socio-anthropologie. Parce que je parle à quelqu'un qui vient d'un milieu rural, je lui pose des questions qui vont dans son intimité. Je dois donc comprendre un peu mieux la culture de cette personne, qui est aussi ma culture. Il faut aujourd'hui des véhicules. L'anglais est un véhicule. Il faut absolument qu'on ait l'anglais. Il faut qu'on cesse d'avoir des étudiants consommateurs. Il faut qu'ils soient acteurs. Il faut qu'ils soient entrepreneurs comme masse. Autrement dit, il faut peut-être qu'eux-mêmes disent, tiens, j'ai mon diplôme, je vais aller organiser moi-même mon entreprise. En fait, toutes ces questions-là, en réalité, doivent vous accompagner, au même titre que l'anatomie, la physiologie, la botanique, parce que c'est consubstantiel à la formation d'un médecin moderne.
Je vous donne la parole, docteur Massamba Sassou Ndiop. Je vous écoute.
Je pense que cette question est extrêmement pertinente. Et justement, c'est cette différence, et l'importance entre finalement soigner et prendre soin, to care and to cure. C'est mais fondamental. Chaque fois qu'il y a un nouveau médecin qui rentre chez nous, il y a toute une partie, je dirais presque 50% de la formation, en plus bien sûr, puisque ce sont des médecins qui sont déjà formés, c'est cette communication-là qui est tellement importante pour que le patient puisse vraiment comprendre sa maladie et comprendre son traitement.
C'est cher Amadou qui est avec nous. Bonjour cher Amadou.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors vous êtes déjà plus loin dans vos études, vous êtes en quelle année?
Je suis en 6e année.
En 6e année. Alors, votre question?
La question, c'était de demander à M. le doyen si la faculté change à ce que les étudiants puissent faire leur stage hospitalier dans la sous-région. Merci beaucoup.
Merci à vous pour cette question aussi intéressante. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ces stages hospitaliers en dehors des hôpitaux sénégalais?
Dans la sous-région, effectivement. Alors, il faut savoir quand même que c'est une bonne initiative, en particulier l'imprégnation à l'anglais. Aujourd'hui, si on parvenait à faire une partie donc, de son cursus dans un pays anglophone, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais sinon, actuellement, ce qui est fait, c'est qu'en général, les étudiants ressortissants de certains pays, on leur permet de retourner dans leur pays d'origine pour le stage rural en particulier. Le Mauritanien qui est là, qui fait donc son cursus au Sénégal, à la fin, il a 4 mois de stage rural. Il peut aller le faire en Mauritanie parce que j'ai un environnement qui lui permet. Probablement aussi, si un étudiant sénégalais a la possibilité d'avoir un stage avec un directeur qui est capable de le recevoir sur place, nous pouvons l'autoriser. C'est possible.
Professeur Abdoul Khan, vous voulez réagir?
Dire que c'est une excellente question. Je rappelle que nous sommes dans un espace harmonisé qui est celui de la CEDEAO. Je rappelle également qu'avec le professeur Fatma Telli et quelques-uns, nous avons mis en place une section qui, je crois, est de plus en plus dynamique, qui est du Collège Ouest Africain des Médecins. Et dans nos projets, nous espérons justement pouvoir faciliter la mobilité des étudiants qui seraient en partie pris en charge par notre section, parce que nous souhaitons vivement que vous puissiez effectivement aller au Ghana, en Gambie, en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans un espace harmonisé et les curricula vont être validants dans tous les cas et j'espère que ça va pouvoir se faire très rapidement, bien entendu, avec les autorités académiques.
Voilà, merci beaucoup pour cette question, cher Amadou. On va passer à la question de Mohamed, si vous voulez bien prendre le micro. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour. Je suis étudiant en 6e année odonto et président de l'amicale de la faculté de médecine. J'aimerais justement intervenir sur la belle réflexion de notre cher maître professeur Abdoul Kane, à savoir décentraliser les stages dans les centres de soins. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les chercheurs ne peuvent pas contenir tous les étudiants. Donc, il y a une nécessité que les étudiants puissent partir en stage dans les hôpitaux, dans les centres de soins, pour avoir un champ d'application, un champ de formation beaucoup plus large. Aujourd'hui, la formation de l'étudiant en médecine, c'est au chevet du malade. Donc, il va falloir que les autorités étatiques puissent déployer les moyens qu'il faut, puissent aider l'administration de la faculté à pouvoir décentraliser ces stages-là. La formation du médecin, la formation du dentiste, la formation du pharmacien, c'est au chevet du malade. Donc, il va falloir que les moyens soient déployés pour que les stages puissent être décentralisés. Parce qu'il faudrait au jour d'aujourd'hui que les étudiants soient accompagnés. Je voudrais revenir même sur la question des étudiants qui sont aujourd'hui en 7e année, qui font des stages ruraux. Et on voit nettement que ces étudiants méritent amplement d'être accompagnés. Pourquoi pas la rémunération des stages? Je voudrais poser la question à M. Le Doyen, à nos chers maîtres ici présents. Ne pensez-vous pas que ces étudiants méritent d'être rémunérés? Parce que quoi qu'on puisse dire, dans les hôpitaux, c'est les 7e années qui font pratiquement tout le boulot. Ils font des gardes la nuit. Ils font pratiquement tout le travail à l'hôpital, donc ils méritent d'être accompagnés. C'est une question, j'aimerais avoir le point de vue de nos chers maîtres sur cette question-là.
Une question qui rime avec...
Si vous le permettez.
Une question qui rime avec revendication, on va leur donner la parole. Professeur Samb.
Merci beaucoup. Bon. Alors, il faut savoir quand même que le stage rural est rémunéré. Enfin, le ministère de la Santé publique, enfin, la direction paye les 4 mois de stage rural. En plus quand même de la bourse de l'étudiant qu'il a régulièrement, il y a ces 4 mois. Alors, maintenant le problème donc de la rémunération donc du stage, je pense que c'est vrai que c'est une décision politique. On a peut-être c'est la raréfaction des ressources. Effectivement, il faut mettre un peu plus de moyens pour aider donc les étudiants à mieux faire leur travail. L'État pour l'instant assure la bourse de 3e cycle pendant la formation en 7e année. Et puis, voilà, on est à ce stade. Maintenant, pour les autres stages, je pense que ça posera des problèmes. C'est des décisions politiques. Il y a des zones de l'Afrique de l'Ouest où il y a des stages rémunérés, mais qui peuvent poser des problèmes. J'ai vu que le Burkina Faso, ça a été extrêmement difficile. Et ça a été introduit, mais ils ont beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et donc, je pense que nous, on va y aller avec prudence. En ce qui concerne donc le stage en 7e année, nous sommes tout à fait favorables qu'il y ait un peu une amélioration de la prise en charge des étudiants en milieu hospitalier, en particulier tout ce qui est réfect nourriture pendant donc leur séjour, parce qu'en fait ils sont là toute la journée. Il est important que la structure qui les reçoit puisse les prendre en charge dans des locaux corrects, effectivement, mais aussi en ce qui concerne donc la nourriture, la prise en charge doit être prise, faite de manière optimale pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions.
Voilà, donc pour cette réponse, on va passer tout de suite à Ousmane. Ousmane, si vous voulez prendre le micro. Vous êtes en 4e année de pharmacie, on écoute votre question. Bonjour.
Alors, bonjour. Ma question s'adresse aussi bien à nos chers maîtres qu'à mes confrères étudiants. Elle parle plus ou moins d'une observation. Après vos allocutions, nous nous sommes rendus compte, principalement, professeur Abdoul Kane, par rapport à votre ouvrage, que vous mettez plus l'accent sur la qualification. Donc, vous avez fait une étude comparative, plus ou moins qualitative, par rapport aux médecins de l'époque coloniale, donc aux professionnels de santé en général de l'époque coloniale et ce que nous avons actuellement. Cependant, au bout d'environ 100 ans, donc à l'occasion du centenaire justement, nous nous rendons compte que le niveau, il est malheureusement bas. Alors que, comme le président l'a dit, Actuellement, nous devons tendre vers une formation du personnel de santé au chevet du patient. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez à l'époque des médecins qui avaient un niveau Bac plus 2, mais qui avaient des qualifications que médecin devrait avoir. Il était à la fois un chirurgien, un cardiologue, un pneumologue et autres. Alors, j'aimerais savoir précisément quelles sont les politiques qui sont actuellement mises en place, mises en œuvre pour que nous puissions essayer de rehausser ce niveau. Aussi, il se trouve que, malheureusement, ceci est vrai, ça s'observe surtout à travers le fait que généralement la faculté de médecine ici, avec la loi du tout ou rien, nous en prenons encore chemin pour passer, non pas pour avoir le savoir, alors que c'est le savoir qui fait en sorte que nous soyons des personnels de santé. Alors quelles sont les politiques qui sont mises en place précisément depuis ces 5 dernières années, ou bien à l'occasion du centenaire, nous sommes à l'ère de la problématique, l'ère durant laquelle nous posons la problématique. Merci.
Un vaste sujet, on va avoir du mal à y répondre dans quelques minutes, c'est même l'objet d'une émission en général, hein. Quelle réforme, quelle piste pour améliorer le niveau, aussi regarder où en est ce niveau, parce que quand même si des étudiants aussi viennent de toute la sous-région, c'est que le niveau n'est pas si mauvais que cela, hein, si je me permets de dire ça quand même. Professeur Abdoulkane, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation?
Depuis 2 ou 3 ans, nous avons appelé tous les médecins chefs des 10 districts sanitaires du Sénégal, les médecins chefs de la région. Et l'idée est la suivante. Nous allons utiliser toutes les structures de santé de Dakar. Et nous allons envoyer donc nos étudiants dans toutes ces structures de santé. Ils seront supervisés par nous-mêmes, par nos équipes, puisque c'est ça aussi le charme de la médecine. Le 7e année peut encadrer le 4e, qui encadre le 3e. L'interne encadre tous ces gens-là. Et puis moi, derrière, je dois accompagner tous ces gens. Pour dire les choses simplement, je suis à l'hôpital d'Al El Gham, dans la grande banlieue, avec un bassin de 500 000 habitants. La cardiologie sera structurée dans toute cette grande banlieue. Nous aurons des étudiants à un niveau le plus périphérique, des assistants ou des internes à un niveau le plus périphérique, mais ils sont en constante relation avec moi. Nous travaillerons donc sur le projet de soins ensemble, avec un encadrement qui sera permanent, avec des staffs qui seront communs. Vous ferez votre thèse dans ce cadre-là. Vous ferez de la formation, puisque vous allez encadrer les plus jeunes, et vous allez descendre sur le terrain, participer à l'action communautaire, et revenir parfois à l'hôpital pour voir des gestes ou faire des gestes plus sophistiqués. Mais encore une fois, tout ceci dans une cohérence. Je pense que quand on le fera, on réglera d'abord la question de la cohérence, ensuite et surtout la pertinence de notre esprit de santé publique. Encore une fois, je pense simplement qu'il nous faut nous réinventer un tout petit peu, parce que ma conviction, c'est que non seulement nous pouvons ou nous devons faire mieux que ce qu'a fait la médecine coloniale, mais nous devons simplement, avec nos ressources et notre intelligence, faire au moins autant que parfois des pays beaucoup plus riches que nous.
Merci pour cette réponse. Célou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes, vous, en master environnement et santé, c'est bien cela?
Bien sûr.
On écoute votre question.
Compte tenu de l'évolution, le phénomène d'urbanisation, on se rend compte que les centres urbains sont en nette transformation. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une interaction ou bien s'il y a une relation entre les spécialistes de la santé et d'autres?
Les urbanistes, par exemple.
Des urbanistes, mais également des aménagistes. Est-ce que, ou bien les sociologues.
Merci. C'est une question qu'on aborde souvent, hein, quand on parle, par exemple, des maladies respiratoires, des conséquences de la pollution, des conséquences de l'assainissement, même des accidents quand des bâtiments s'écroulent. Est-ce qui, parmi vous, veut répondre à cette question?
Je vais
Professeur Abdoulaye Sam.
Merci beaucoup. Le curriculum que nous avons pour la formation donc du médecin est un peu relativement rigide, mais dans l'approche de prise en charge, disons, de l'enseignement de la pneumo aujourd'hui, il ne serait pas compliqué, quand on parlera de pollution et surtout de ses effets sur la fonction respiratoire, de faire appel à
des intervenants
extérieurs, à des spécialistes donc en géographie, en urbanisation, pour donc nous accompagner. Et je pense que ça, c'est utile. Dans la spécialisation, c'est sûr que ça se fera. C'est des points sur lesquels donc, nous insistons beaucoup et qui sont introduits avec cet apport d'autres spécialités pour venir un peu ensemble aborder donc, la question.
Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer la parole à Aïcha. Aïcha, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en 4e année de pharmacie, on écoute votre question.
Ma question s'adresse à professeur Fatima Tali. Professeur, vous avez tantôt parlé de la faible présence des femmes dans le domaine de la santé. Donc là, il y a une réalité qui est là. En général, dès première ou deuxième année, les parents ont tendance à te demander quand est-ce que tu vas te marier, qu'est-ce que tu attends. Donc c'est une pression sociale, voire familiale. À la longue, ça devient pesante. Là, j'aimerais savoir comment vous avez pu faire pour échapper à cette pression familiale. Et voilà, parce que là, ça devient pesante.
C'est personnel, mais c'est important parce que ce sont des parcours de vie, des parcours d'étudiantes. Et la question se pose pour beaucoup de jeunes femmes quand elles atteignent 20 ans. On sent un petit peu la famille derrière qui est en train de dire « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Professeur Fatima Tali, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question?
Rapidement, pour dire que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je suis l'exemple, je me suis mariée en première année de médecine. Ça ne m'a pas empêchée de poursuivre mes études médicales. Il faut dire, ces réalités existent. Hein. Ces réalités existent, il ne faut pas les nier. Il y a des pesanteurs sociales, mais à force de lutte, mais surtout avec l'aide de la famille, avoir une famille compréhensive, ça aide beaucoup à dépasser ce cap. Mais je veux dire, le fait d'être marié n'empêche pas du tout, ou bien d'avoir des maternités, n'empêche pas du tout de poursuivre ses études médicales. Et pour vous encourager, cette année, au dernier palmarès du concours d'agrégation, le pourcentage de femmes est au-dessus du pourcentage des hommes. Ça veut dire que quand les femmes décident de s'y mettre, elles donnent le pion aux hommes. Merci.
Merci. On va tout de suite donner la parole à Raki, c'est bien ça? Bonjour Raki.
Bonjour tout le monde. Ben, moi je suis psychiatre au CHU de Fannes et assistante vacataire en anatomie. Je me pose la question, est-ce que dans le curriculum actuel, il y a cette partie de lecture critique d'articles? Parce que je me suis rendu compte que pour les étudiants qui ont choisi de faire les masters, c'est pas un problème, ils sont initiés, mais par contre le reste des étudiants, ils n'ont pas ces notions. Alors, est-ce que ce serait pas intéressant d'introduire cette discipline pour leur permettre après d'exploiter leurs travaux, ne serait-ce que la thèse, et ces lectures critiques d'articles vont leur permettre de s'initier à la recherche, avoir l'esprit critique analysé, et le plus tôt serait mieux, et après on pourrait récolter une certaine productivité
professeur,
au plan scientifique.
Professeur voilà. Abdoulkane, vous voulez réagir?
Je voudrais rappeler que il s'agit là aussi d'une des recommandations fortes de la réforme et de ce que nous devons réformer. Et pour moi, c'est tellement pertinent que, un, il faut le faire, deux, il faut le faire tôt, parce que ça va outiller l'étudiant jusqu'à la fin. Ensuite, c'est aussi une passerelle possible. Aujourd'hui, moi, je suis un clinicien, quoi que je fasse, et j'aurais du mal à structurer ma recherche. Et il pourrait être bon qu'un jeune étudiant qui, en deuxième ou troisième année, a envie d'arrêter un peu, devienne un attaché de recherche clinique dans mon service, vienne travailler avec moi. Si j'en ai deux ou trois, je suis sûr que je ferai de la formation de qualité. Lui-même pourrait deux ans après faire un master, puis un doctorat. Ce n'est pas un doctorat en médecine, c'est un docteur en recherche, en sciences de la recherche. Et on va là aussi régler en partie la question de la massification, mais surtout outiller nos étudiants, qui pourront d'ailleurs s'arrêter de temps en temps, aller chercher de l'argent et ne pas toujours réclamer de l'argent. Parce que je peux vous dire, attaché de recherche clinique, être bon en clinique, ça peut rapporter gros. Bref, c'est pour moi encore une fois une très belle idée. Il faut l'instituer tôt. Et on peut le faire tout le long du curricula et même en faire, encore une fois, une formation parallèle et diplômante.
Voilà, voilà pour cette réponse, Raki. Merci beaucoup. On passe à Malik. Malik, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai remarqué que maintenant, ici à la faculté, dans le département de médecine, beaucoup ne veulent plus être généralistes. Tout le monde veut être spécialiste. Donc je me suis dit que est-ce que vous pensez à faire comme dans d'autres pays, raccourcir le cursus et de faire généraliste une spécialité comme les autres, ou bien quelles précautions vous allez prendre par rapport à ça? Parce que si ça continue dans 20 ans, 30 ans, il n'y aura plus de généralistes.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, professeur Abdoulaye Sam, cette désaffection des vocations pour la médecine générale?
La spécialité, effectivement, on vient de l'introduire hein, dans notre cursus, il y a les différentes spécialités. Et il y a quelques-uns qui s'y engagent, hein. Ce n'est pas tout le monde. Il y a peut-être un pourcentage important qui continue encore donc, à commencer très tôt à travailler. Hein. C'est de bons médecins, généralistes, et je pense que ça c'est important. Alors, les spécialités qu'on a mis en place, c'est la médecine interne. Hein. Vous voyez, c'est la spécialité de médecine interne, c'est un peu la médecine générale spécialisée. Parce qu'effectivement, en Europe maintenant, le métier de médecin général, c'est une spécialité. Alors, donc, je pense que c'est dans l'évolution normale de beaucoup des choses. Hein. les spécialités vont être mises en place, c'est que les médecins qui ne veulent pas travailler pour ces spécialités, ils vont continuer à le faire, mais par contre, d'autres vont travailler parce que l'État va prendre des gens, va recruter et ils seront utiles et pourront être fonctionnels. L'essentiel est que nous, que quand on les met au contact de la population, qu'ils soient suffisamment aptes à prendre en charge la santé.
Alors on va passer à une dernière question. Vous aviez une autre question, Malik, on vous écoute.
C'était par rapport au cours, si ça pouvait être plus interactif, parce qu'on ressent qu'il y a parfois, certains professeurs ont eu des cours de pédagogie et d'autres, mais parfois on remarque que certes, pour certains professeurs, on a plus envie de faire le cours, pour d'autres, généralement, c'est plus une lecture, si vous m'excusez.
Et je crois que Malik est en train de vous dire qu'il y a de meilleurs profs que d'autres, hein, tout simplement.
Et pour donner un exemple...
Mais on ne donnera pas de nom. Allez-y, oui. Allez-y.
Pour donner un exemple, par rapport à l'anglais, comme a dit professeur Fatima Telly, je suis le président du club d'anglais de la fac, mais on remarque que les cours d'anglais ne sont pas vraiment respectés parce que parfois le département d'anglais n'a pas le temps et que aussi c'est vraiment une spécialité différente. Parce que la médecine en anglais, c'est vraiment différent de ce qu'eux, ils ont appris à la faculté. Parce que j'ai même entendu parler via certains professeurs que même lors des conférences internationales, quand on amène un traducteur, il y a un problème. Parce qu'il y a vraiment l'anglais médical. Et il y a des étudiants ici qui ont fait de l'anglais médical ou bien qui ont des diplômes en anglais et qui auraient bien aimé pouvoir intégrer, comme dit le système LMD, les cours et essayer de participer et d'aider leurs confrères. Merci.
Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas, vous voulez quand même répondre, professeur Abdoul Khan.
Je voudrais juste partager une expérience que nous avons initiée dans les UFR. Peut-être qu'on y arriverait à Dakar. Au moment où je parle, dans certaines UFR, 2 semaines après l'ouverture académique, nous avons terminé notre programme. Nous avons terminé notre programme, en ayant parcouru tout le programme, mais sous forme de séminaire succinct. Et je peux vous dire que c'est moitié exposé du prof, moitié l'interactivité. C'est juste pour vous dire que si nous faisons un effort sur nous-mêmes, c'est faisable. Autrement dit, au moment où je vous parle, mon programme de cardiologie à l'UFR de Thiès, par exemple, se déroule tout simplement sous forme d'interactivité, rien que de l'interactivité. Finalement, ce sont les étudiants qui lisent des tracés électrocardiographiques par WhatsApp, qui interprètent des films de radio, qui viennent parler d'un certain nombre de choses, qui sont mis en position de stage. C'est juste pour dire que nous devons là aussi réinventer notre méthode d'enseignement. Et à Dakar, nous sommes en train d'y réfléchir là également avec Michel Doyen. Il y a la massification, mais peut-être que là également nous pouvons y arriver. Si par exemple on dit, nous sommes 10 professeur à la faculté ou en cardiologie, on se scinde en 2 ou 3 groupes, on les prend par groupe de 100 par exemple, et on pourrait, je crois, les accompagner. Et je pense qu'il me paraît absolument nécessaire d'avoir moins de verticalité dans l'enseignement, plus d'interactivité, puisque la médecine c'est aussi de l'interactivité, c'est aussi réfléchir, c'est aussi déchevelir une difficulté diagnostique.
Voilà, donc vous êtes d'accord sur cette nécessaire interactivité. Dernier étudiant à poser une question, c'est Babacar. Bonjour Babacar.
Bonjour.
Alors, vous êtes en quelle année?
Je suis en 4e année de pharmacie.
Et votre question, vous écoute.
Voilà, merci. Donc, ma question, c'est pour M. le doyen. Dans votre intervention, vous avez parlé du système LMD, vous avez parlé de réforme, vous avez aussi parlé de la qualité des études. Donc, ma question, c'est par rapport au système LMD. Donc, dans les textes du système LMD, on a dit que ce sont les profs titulaires qui doivent charger des cours. Donc, ici, à la faculté de médecine, on note que, voilà, il y a d'autres profs qui se sont chargés des cours. En même temps, pour nos camarades médecins qui sont au niveau des hôpitaux, on a l'impression, ou bien tu parles avec un étudiant, il te dit que j'ai fait 1 mois au niveau de tel service et que je ne connais pas le chef de service. Donc, par rapport à ça, alors que ce sont ces mêmes profs-là qui sont chargés, ce sont ces mêmes profs titulaires qui sont chargés des cours au niveau du privé. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a un système de contrôle par rapport à ça ou bien est-ce qu'il y a des sanctions pour ces professeurs? Merci.
Alors, là, il faut une explication parce que pour les gens qui ne sont pas au fait du système, ça veut dire que comme il y a un certain nombre de structures de santé privées, y compris des structures d'enseignement de médecine privée, certains qui travaillent ici, je veux dire officiellement, travaillent ailleurs parallèlement et n'assurent plus leur charge professionnelle normale. J'ai résumé. Est-ce que c'est ça?
Alors, ça pourrait être...
En des termes crus, peut-être, un peu trop direct.
Ça pourrait être peut-être ça, hein, mais je ne veux pas être affirmatif, mais Sachez que, bon, l'idéal, c'est quand même quand vous essayez de faire d'abord tes obligations au niveau donc de l'employeur, c'est ici la faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto. Et puis maintenant, tu peux, effectivement, il y a des heures libres ou d'autres heures que tu peux consacrer. D'ailleurs, parce que ça, effectivement, nous avons actuellement au Sénégal, l'État a décidé de tolérer et de permettre l'ouverture donc des structures privées. Et la seule source, c'est l'université Cheikh Anta Diop Dakar et en particulier la faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto, pour la plupart. Les structures privées ont peut-être 10% d'enseignants propres. En général, ils veulent se baser sur l'existant. Alors donc, je pense que c'est un problème. Mais le devoir de chaque enseignant, c'est d'abord d'assurer ses devoirs au niveau de la structure. La structure, l'employeur, c'est la faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto. Que ça soit au niveau hospitalier, qu'au niveau de la faculté, les obligations doivent être assurées.
Est-ce que ces obligations sont respectées?
Alors, il y en a beaucoup quand même qui assurent les obligations. Peut-être il y en a quelques-uns qui ne le font pas. Aujourd'hui, le recteur a transmis, peut-être vous l'avez reçu, tous les enseignants l'ont reçu, effectivement qu'on donne un emploi temps, que chaque enseignant donne son emploi du temps et les cours qu'il fait régulièrement. En tout cas, c'est une demande. Maintenant, on va attendre donc de voir. Mais je pense que par conscience professionnelle, tout enseignant doit d'abord faire ses devoirs au niveau donc de l'employeur.
Et en tout cas, ce que l'on entend en tout cas, c'est que les étudiants ont envie d'un enseignement de qualité.
Mais tout à fait.
Ils ont envie d'interactivité. Ils ont envie d'avoir des bons profs.
Mais c'est ça qu'il faut. Ils ont le droit. Ils ont envie, mais ils ont aussi c'est le droit d'avoir donc ce bon prof. Parce que nous avons quand même au niveau de la faculté de médecine un bon ratio relativement intéressant entre les professeurs et le nombre donc d'étudiants. Et il est important que chaque enseignant donc de grand magistrat puisse faire son devoir, encadrer un certain nombre d'étudiants, que l'étudiant soit avec son enseignant au lit du malade pour quand même apprendre au-delà même des gestes, mais c'est le savoir-vivre, le savoir-être. Il a parlé tout à l'heure de communication, etc. Mais ça, l'enseignant doit pouvoir apprendre à l'étudiant qui est là avec lui chaque jour, toutes les matinées.
Ce temps du soin, le temps est passé très vite, l'émission est presque terminée. J'aurais aimé parler de la fuite des cerveaux, de la transmission entre les générations. Hélas, 50 minutes, ça passe vite. On va remercier chaleureusement nos quatre invités qui ont eu la gentillesse de répondre présent à l'invitation de Priorité Santé. Merci à vous, professeur Abdoulaye Samb. Je vous ai peut-être un petit peu embêté avec mes questions. Doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UQAD, professeur de physiologie humaine. Merci à l'université, bien sûr, à la fac, qui nous a ouvert ses portes pour enregistrer cette émission. Merci, professeur Fatima Tali, dermatologue, vénérologue, médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. À vous, professeur Abdoul Khan, professeur de cardiologie, directeur de la polyclinique de l'université de Dakar, et à vous, docteur Massamba Sassoun Diop, médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Et bien sûr, on vous remercie, surtout vous, le public qui est devenu étudiant, pour assister à cette émission, poser vos questions, et on vous dit à très bientôt ici à Dakar. Priorité Santé à l'UQAD, à l'occasion du centenaire de la création de l'école de médecine dans la capitale du Sénégal. Émission préparée par Ophélie Lassène, merci à elle. Réalisée par Richard Rifono à Dakar, on peut les applaudir aussi. Réalisée par Didier Bleu à Paris. Et lundi, dans Priorité Santé, une émission consacrée à la Journée mondiale du handicap. Si vous voulez témoigner, posez vos questions. Le téléphone, 33 84 22 75 75. On se retrouve la semaine prochaine et au revoir Dakar.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier.